J'ai dit à maintes reprises que l'État, issu de la Révolution nationale, devait être autoritaire et hiérarchique.
Bonjour, aujourd'hui deuxième épisode de notre série « Le régime de Vichy fut-il une dictature ?» Une question à laquelle nous tentons de répondre avec l'historien Laurent Joly. Dans l'épisode précédent, nous avons vu, alors que la France est envahie par l'armée d'Hitler, comment la nomination de Pétain à la tête du gouvernement le 17 juin 40 a fait triompher le camp anti-républicain et conduit à la signature de l'armistice. Depuis l'armistice du 22 juin 1940, la France est séparée en deux zones, délimitées par une ligne de démarcation. Au nord et à l'ouest, la zone occupée par l'armée allemande, et au sud-est, la zone non occupée dite libre. Bordeaux étant désormais occupée, le gouvernement présidé par Pétain a échoué le 1er juillet à Vichy, une station thermale dont les hôtels peuvent accueillir beaucoup de monde. De toute la France, les députés et les sénateurs sont appelés à rejoindre Vichy afin de voter pour ou contre un projet de loi constitutionnelle qui a été concocté par le vice-président du Conseil, Pierre Laval. En principe, il n'est pas encore question d'abolir la Troisième République, ni de créer une dictature. Mais pour certains observateurs, les intentions de Laval sont claires. Par exemple, pour le député socialiste Louis Noguer, je cite « Le gouvernement Pétain est décidé à supprimer le Parlement et à instaurer un régime fasciste ». Très clair aussi pour le journaliste Louis-Martin Chauffier. « Laval, écrit-il, instaure le fascisme pur et simple ». Laval lui-même, qui a une revanche à prendre, reconnaît mener depuis des jours, je cite « un travail de taupe ». Un travail de taupe qui porte ses fruits. Chaque jour davantage, l'idée d'une possible mort de la République se propage dans les esprits. La plupart, envahis totalement par le poison, se courbaient sous la fatalité, écrira Léon Blum, qui ajoute « On a vu là des hommes s'altérer, se corrompre comme à vue d'œil, comme si on les avait plongés dans un bain toxique. Ce qui agissait, c'était la peur. » La peur, en effet, peur d'une arrestation déjà, peur même d'une violence physique. Résultat, le 10 juillet 1940, réunis au Grand Casino de Vichy, un décor d'opérette pour une tragédie, les 672 parlementaires, à une immense majorité, votent les pleins pouvoirs à Pétain.
Mesdames, messieurs, le maréchal Pétain vous parle.
Français, l'Assemblée nationale m'a investi de pouvoirs étendus. Pour accomplir la tâche immense qui nous incombe, j'ai besoin de votre confiance. Vos représentants me l'ont donné en votre nom. Ils ont voulu, comme vous et comme moi-même, que l'impuissance de l'État cesse de paralyser la nation. Ah, pas de chance. Tous les Français fiers de la France fière de chaque Français, tel est l'ordre que nous voulons instaurer.
France Inter, le fil de l'histoire, Stéphanie Duncan.
Laurent Joly, on a souvent dit que la Troisième République s'était elle-même sabordée en se jetant dans les bras de Pétain et de Laval, voire même on a dit que c'était la chambre issue du Front Populaire qui avait donné naissance au régime de Vichy. Alors vous, vous écrivez dans votre livre, Laurent Joly, que c'est les 11 et 12 juillet qu'a vraiment eu lieu ce que vous appelez un coup d'État, et non pas seulement le 10 juillet. Pourquoi ?
Pourquoi ? Parce que c'est ce qui s'est passé, c'est-à-dire que le vote du 10 juillet 1940, c'est pas les pleins pouvoirs. Comme on le dit souvent, c'est les pleins pouvoirs constituants. C'est-à-dire que le maréchal Pétain a reçu mandat de la nation de proposer une constitution qui aurait dû être soumise aux assemblées. Alors une fois qu'on a dit ça, il faut quand même bien comprendre que ce qui s'est passé a quand même permis évidemment ce coup d'État, parce qu'il y a d'abord un travail de taupe, vous l'avez rappelé. En fait, on est parfois tellement pris par des idées un peu fausses sur vous l'avez dit, sur le Front Populaire, c'est la Chambre du Front Populaire, c'est évidemment pas la Chambre du Front Populaire. Et puis, on est aussi pris parfois par cette question, est-ce que c'était légal, légitime, qu'on oublie et qu'on perd de vue, en fait, l'énormité de ce qui s'est passé. Parce que c'est bien énorme ce que Pierre Laval a réussi à faire. Parce que, imaginez la France, qui vient de subir une défaite terrible, des millions de personnes qui sont sur les routes, un pays qui est coupé en deux. Et Pierre Laval ne trouve rien de mieux que d'obtenir à ce que les chambres se rassemblent. Il y avait peut-être autre chose à faire. Et s'il le fait, c'est parce qu'il a une idée derrière la tête, qu'on cache plus ou moins à l'ensemble des parlementaires, c'est que lui veut le pouvoir. En fait, toute l'opération n'a de sens que parce que Pierre Laval veut être désigné successeur du maréchal Pétain. Le maréchal Pétain, il a déjà le pouvoir. Vous savez, depuis l'entrée en guerre, le président du Conseil, il a les pleins pouvoirs. Il a déjà, Daladi avait les pleins pouvoirs, c'est voté par les chambres, et tout le monde était d'accord pour que Pétain, nommé président du Conseil, ait également ses pleins pouvoirs, que ça se perpétue. Et à part Alibert, l'âme damnée de Pétain et Laval, personne ne pouvait imaginer que la République se saborderait. Et si la République s'est sabordée, c'est parce que Laval a joué toutes les cartes, qu'il a d'abord joué de ce moment terrible. Voilà, les gens sont pris par cette défaite foudroyante, par un côté on se crucifie, c'est la France qui a perdu, mais c'est aussi la République. Donc il joue de tout ça, il joue sur tous les ressorts, et il va mettre les gens dans une sorte de lessiveuse qui va les empêcher de réfléchir. Mais on voit bien que plein de choses, il y avait plein de signaux en fait qui auraient dû alerter les gens. Parce que le projet d'acte constitutionnel qui est présenté, on nous parle déjà de travail, famille, patrie, on nous dit déjà que la nouvelle constitution sera autoritaire, que la France sera une nation paysanne dans une Europe allemande. Enfin, voilà. Oui. Mais pour autant, il y a quand même un mensonge. C'est ça, c'est l'idée que on a un Parlement, on a un président de la République, et on avait un président du Conseil, et ben le 11 juillet 1940, vous n'avez plus qu'une seule personne qui décide par des actes constitutionnels qui sont, pour le coup, illégaux, parce qu'ils ont une nature constitutionnelle. Le président de la République, le brave Lebrun, on lui dit « partez », et les chambres sont mises en sommeil. Ça, ce n'était pas le vote du 10 juillet. Et surtout, le lendemain, 12 juillet 1940, et c'était ça toute l'opération, Laval est désigné successeur de Pétain. Pétain, il a 84 ans, il n'est pas éternel. Donc, vous voyez qu'on a vraiment là un coup. On passe de la logique d'un régime autoritaire, dans lequel très clairement on était le 10 juillet 40, à une dictature.
En deux jours.
En deux jours. Voilà. Ce qui fait que la plupart des parlementaires, alors, est-ce qu'ils ont été naïfs ? Alors, dans les archives de René Cassin, qui était le grand juriste de la France libre, autour du général de Gaulle, René Cassin a écrit un livre extraordinaire sur le coup d'État juridique. Donc, lui, il défend cette thèse du coup d'État juridique. Mais au début, j'ai trouvé les brouillons, et il est plutôt dur avec les parlementaires. Puis après, pour des raisons politiques, il va atténuer. Donc c'est vrai que les parlementaires, c'est difficile de se dire est-ce qu'ils ont été naïfs ou est-ce qu'ils n'ont pas été lâches. Et on est entre les deux.
L'image de Léon Blum est assez forte, hein, quand il dit des hommes se corrompant à vue d'œil, comme si on les avait plongés dans un bain toxique. Il parle d'un poison.
Oui, c'est vraiment ça. Et quand on lit tous les témoignages et quand on lit la description qu'on a faite dans le livre, c'est vraiment ça. On voit des gens qui arrivent et qui ont des arguments logiques, qui comprennent ce qui va se passer, qui le disent, mais attendez, là, c'est Laval qui veut nous enfumer. Parce qu'il faut quand même bien rappeler que Pierre Laval, homme politique très connu de la Troisième République, a été plusieurs fois président du Conseil, il a une très mauvaise réputation. C'est un sénateur qui n'est pas apprécié. On sait très bien que c'est un affairiste. On sait très bien que c'est un magouilleur. On sait très bien qu'il est prêt à tout pour revenir au pouvoir. Il n'a pas supporté d'être écarté du pouvoir en 1936. Donc, on n'a pas confiance en lui. Et malgré cette conscience que beaucoup de gens ont, parce qu'il y a le maréchal Pétain, parce qu'on ne veut pas manquer au maréchal Pétain, parce qu'on a peur que l'opinion publique, elle n'aime pas le Parlement en 1940. Donc, tout ça, c'est un enchaînement de faits qui fait qu'il va y avoir cette lâcheté et qu'on va arriver à l'impensable. Parce que quelques jours avant, personne ne pense que c'est possible. Personne ne pense que d'abord l'Assemblée nationale peut comme ça se délaisser de ses pouvoirs, que le président de la République ne va rien dire, que le président du Sénat ne va rien dire, que le président de la Chambre des députés. Ils sont tous contre Pétain plutôt. Et pourtant, ça marche.
Est-ce qu'il y a vraiment un climat de peur et de menace à Vichy pendant ces jours-là ? C'est ce que dit un peu Léon Blum.
Alors, on a un homme, effectivement, Pierre Laval, qui a décidé. Alors, il est simplement vice-président du Conseil. Il va prendre la main sur la presse. Et il y a des menaces. Il y a tout un... On voit vraiment une bande. C'est assez fascinant de voir ça. Il y a une bande. C'est des voyous. Et donc, il suggère... Faites attention à votre vote. Vous risquerez peut-être d'être emprisonné. On interdit le journal socialiste, le populaire. Il y a les bandes de Doriot qui sont là. Donc, d'un côté, on dit... Laval fait aussi croire qu'il va peut-être protéger la République. Enfin, il va actionner tous les leviers pour créer effectivement un climat de peur qui empêche les gens de réfléchir et de voir ce qui va suivre.
L'immense majorité des parlementaires donc a voté les pleins pouvoirs à Pétain. Il y a aussi 80 députés et un seul sénateur qui vote non. Est-ce qu'il y a des couleurs politiques tranchées entre ceux qui votent oui et ceux qui votent non ?
Absolument. Là aussi, il y a une idée reçue qui tend à dire que tout le monde s'est effondré. Non. Et c'est assez logique, en fait. C'est la gauche qui a le mieux tenu. Et d'ailleurs, grâce à Renaud Meltz, On a trouvé un document incroyable, inédit. Voilà, Rodomels, qui est le biographe de Laval, il a trouvé dans les archives de Pierre Laval, il a trouvé un document incroyable. On voit que Laval a été, ce travail de top dont vous parliez, il a noté tous les parlementaires, il a tenu des listes, il a fait du lobbying. On voit bien qu'il comptait pas trop sur les socialistes. Et effectivement, les socialistes sont ceux qui ont le mieux tenu. Donc sur les 80, vous avez 77 hommes de gauche, socialistes pour l'essentiel, radicaux socialistes, et vous avez deux centre-droits et un indépendant. Voilà, donc c'est la gauche qui a le mieux tenu, mais malgré tout, 70% des socialistes ont voté les pleins pouvoirs, contre 30%.
Merci Laurent Joly. Dans le prochain épisode, nous verrons comment, dès juillet 1940, le nouveau régime de Vichy met en place le pouvoir personnel de Pétain et son projet de révolution nationale.